TSF Jazz, la seule radio 100% jazz.
Ellington a composé plus de 1000 œuvres en 50 ans de carrière, probablement un des plus grands héritages du XXe siècle, mêlant l'esprit du blues à l'invention orchestrale la plus raffinée. Le Duke a toujours défendu l'idée d'un art pour tous, délivrant un langage original et intemporel, bâti sur l'imagination, l'intelligence et l'esthétisme sonore, au-delà des styles et des époques. D'ailleurs, son œuvre reste d'une actualité incroyable. Toutefois, les occasions de réécouter cette musique en live, par contre, sont assez rares. Un musicien a décidé de garder cet héritage vivant en créant le Duke Orchestra, un travail de bénédictin reconnu et adoubé, puisque le Duke Orchestra est aujourd'hui considéré par la Duke Ellington Music Society, les musiciens et les grands festivals de jazz comme le meilleur orchestre ellingtonien en activité. Le Duke Orchestra sort le 27 février 2012 un album intitulé Ellington French Touch sur le label Columbia. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans le 20h de TSF ce soir Laurent Mignard, qui est à l'origine de ce projet. Ça va, Laurent ?
Oui, ça va. Bonsoir à tous.
Oui, bonsoir. Est-ce que on peut revenir un peu sur l'origine de ce projet ? Quelle drôle d'idée quand même. Ça a démarré en 2003, je crois, non ?
Ça a démarré en 2003, mais c'est pas moi qui ai eu l'idée du projet. C'est le Festival d'Esprit Jazz qui m'a commandé la recréation des musiques sacrées d'Ellington à Saint-Sulpice. Ellington avait joué en 69. Et Fred Charbot cherchait pour l'Esprit Jazz un grand concert à Saint-Sulpice et il voulait refaire ce concert. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pendant 9 mois transcrit l'œuvre à l'oreille à partir des disques.
Ouais.
Et ensuite,
oui, parce que c'est un travail de bénédictin, c'est un peu ça. Hein.
Bah c'était pour 15 musiciens, un chœur à 4 voix, 3 solistes, plus une mise en scène avec parole d'Ellington dans le spectacle. Et ça a lancé l'orchestre en 2003. Oui, c'est ça, juin.
En juin 2003, d'accord. Après, mais en fait, il y a d'autres orchestres de Duke Ellington. Enfin, il y a même le Duke Ellington Orchestra, je crois.
On n'est pas les seuls.
Il y a Mercer Ellington, son fils, qui l'a dirigé pendant quelques années, je crois.
Oui, disons que le Duke Ellington Orchestra, dont Mercer, le fils de Duke, a pris la suite, est toujours en activité. Et il est maintenant dirigé par Paul Ellington, qui est le petit-fils de Duke.
Ah ouais.
Et qui a une activité aux États-Unis et beaucoup en Asie, d'ailleurs au Japon aussi. Donc ils font un travail de leur côté, de préservation, et puis du plaisir de jouer la musique du grand-père, bien sûr. Bien sûr, le Lincoln Center de Wynton Marsalis fait occasionnellement des programmes ellingtoniens. Il avait fait un très beau programme en 99 pour le centenaire d'Ellington. Et puis, il y a l'orchestre de la Smithsonian Institution, dirigé par David Baker, qui fait également un programme sur Ellington. Mais j'allais dire que ces deux derniers sont pas spécifiquement ellingtoniens.
Non. Mais alors, malgré tout ça, toute cette pléthore d'orchestres, puis alors après, il y a tout un tas de petites formations qui reprend cette musique à satiété. Malgré tout ça, c'est la Duke Ellington Music Society qui vous a adoubé. Vous, pourquoi?
Bah d'abord, on est très honorés, mais moi j'ai rien demandé à personne. La seule chose qu'on fait...
Tant mieux, ça veut dire que c'est une reconnaissance spontanée.
Oui, c'est vrai, mais comment dire... moi, depuis le départ, je pense que la seule façon de jouer Ellington correctement, c'est d'abord d'aller, comme vous dites, à la mine presque, pour transcrire un matériel d'orchestre le plus proche possible des partitions du Duke, puisque les partitions n'existent pas.
Je m'en doutais. Ouais.
Et j'ai pas du tout l'intention d'acheter des partitions du commerce qui sont soit des arrangements, soit des transcriptions approximatives. Donc on fait toutes les transcriptions nous-mêmes. Ça c'est le fond. Mais après, une fois que ce travail est fait, il faut ensuite jouer en répétition le plus proche possible de ce qui est écrit, y compris les solos des solistes, la ligne de basse, la partie de batterie, tout est relevé.
On est vraiment très proche de la musique classique là.
Oui, et là on est vraiment dans un travail d'interprétation et ensuite on passe à l'étape d'appropriation, c'est-à-dire chaque soliste, on vient d'entendre tout à l'heure Didier Desbois qui joue le rôle de Hodges chez nous. François Biensand dans le rôle de Cootie Williams, Philippe Shine dans celui d'Harry Carney, chacun est conscient de son rôle, évidemment Milanta au piano dans le rôle de Duke.
Philippe Milanta.
Chacun va trouver ensuite quel est le bon compromis entre la fidélité à l'original et puis sa personnalité de musicien. Et je pense que ce qui nous est reconnu, c'est le bon équilibre entre la lettre et l'esprit.
Voilà, c'est pas de la copie conforme, mais chacun se l'est approprié, a réussi à restituer en tout cas le climat. Ce qu'on entend là en tapis.
Ouais, et en troisième lieu, je dirais que ce qui me semble absolument indispensable, c'est tout ce qui touche au son. Et on fait un travail énorme sur le son des sections, le son de chaque instrument. Et il nous est dit de temps en temps à la sortie des concerts, des gens qui avaient vu Duke en concert, qui disent que bon, l'orchestre joue bien, c'est pas ça vraiment le sujet. Ce qu'ils ont, c'est la sensation de retrouver le son qu'ils avaient rencontré avec Ellington jusqu'en 74, le son des sections, la puissance des cuivres, les contrastes, toutes les couleurs, parce que c'est pas un big band Ellington, c'est un grand orchestre, hein, c'est un grand orchestre avec toutes les palettes sonores, et ça c'est notre travail, que de le sortir du microcosme du jazz et de l'emmener sur un grand ensemble, j'allais dire de musique noire, même si nous on n'est pas noirs.
Pas très, non.
Non, pas très.
15, vous dites un grand orchestre, 15 musiciens, donc, alors j'ai envie de vous demander, est-ce bien raisonnable quand même? Dans le contexte actuel? Comment est-ce que vous faites survivre un groupe?
Ben, je suis pas le seul. On est nombreux, notamment dans la fédération Grand Format, qui regroupe la plupart des grands ensembles professionnels. On a tout ça en commun avec les copains chefs d'orchestre de Grand Format de croire que la musique en grand ensemble a du sens aujourd'hui pour le public. C'est quand même plus bas de quand c'est grand. Il y a pas à dire, le public le ressent. Et puis il y a un choix de couleurs, d'orchestration. Et puis ça laisse la possibilité à plus de musiciens de partager le projet. Ça fait 15 musiciens peuvent partager le projet plutôt que 3. Donc il y a plus d'énergie, j'allais dire aussi.
L'énergie, ça j'en doute pas. Mais alors après, faut faire survivre tout ça. Il y a un public quand même. Il y a des lieux. Il y a des possibilités de se.
Mais c'est
se
incroyable.
Produire, de se
présenter, c'est genre. Incroyable. La musique d'Ellington touche les gens absolument dans tous les milieux et à tous les âges. On a donné 20 concerts l'an dernier en festival, en scène nationale, en centre culturel, en plein air, et des productions qu'on a créées nous aussi. Je suis très étonné, moi, par le fait que la musique d'Ellington soit considérée comme aussi moderne aujourd'hui. Et je me bagarre d'ailleurs pour...
Intemporel, c'est ce qu'il a cherché, hein, d'ailleurs.
Absolument. Ouais,
il a atteint son but. Vous vouliez dire, on parlait hors micro tout à l'heure avant le début, on ne voit jamais, hein, mais quand même on apprend des choses. Vous vouliez dire quelque chose à propos du premier titre qu'on a entendu, The Old Circus Train?
Bah, ça c'est assez marrant. Dans l'album que l'on présente ce mois-ci, enfin à la fin du mois, on fait un focus sur les relations qu'Ellington a entretenues avec la France et vice versa, bien entendu. Et puis sur ce morceau-là, particulièrement, c'est une création qui a été faite à Antibes, Jean Lépin, en juillet 66. Mais l'histoire est marrante. Ellington, il jouait ses morceaux et puis les programmateurs avaient demandé Ellington, dis donc, vous pourriez nous faire un morceau nouveau, une création, déjà à l'époque on parlait de ça. Et lui, il avait ce truc dans les cartons, et on voit d'ailleurs les répétitions publiques de ce morceau sur un DVD qui s'appelle Duke at Côte d'Azur, où on voit dans une deuxième partie d'ailleurs Ella Fitzgerald. Et c'est passionnant de voir ça, parce que on voit bien que la musique d'Ellington, elle est rarement écrite, et elle est construite au fur et à mesure des répétitions, des concerts, changées, rechangées. Et on a eu plaisir à mettre en scène justement ce shuffle dans ce disque, qui est probablement une contribution de création pour la France.
Ouais, il travaille comme un peintre avec sa palette, plutôt que y a rien n'est prédéfini, le tableau prend forme au fur et à mesure. Mais on va écouter un deuxième thème de l'album. On est toujours dans le 20h de TSF ce soir avec Laurent Mignard qui nous présente son dernier album, l'album du Duke Orchestra, qui est une production, Laurent Mignard.
C'est une production Juste une trace.
Et qui est diffusée par...
Et qui sort sur l'excellent label... Columbia Sony Music.
Voilà, le 27 février 2012, l'album s'appelle... Alors, on va vous laisser la parole encore.
Ben, l'album s'appelle Ellington French Touch. Ce sont les contributions croisées entre Ellington et la France.
Et évidemment, c'est le Duke Orchestra qu'on entend. J'ai envie de vous poser une autre question à ce sujet-là, au sujet des œuvres qu'on entend là-dessus. Vous ne vous contentez pas de reprendre des œuvres connues du Duke, comme pas mal de groupes, mais vous avez aussi exhumé des œuvres rares. D'où vous les tenez? J'imagine qu'il n'y a plus du tout de partition là-dessus. Ça a été joué une fois, quelque part, et puis vous reprenez ça. Comment?
Alors, parfois, c'est un enregistrement rare, à la limite de l'audible, qui nous permet de récupérer un témoignage sonore et ensuite de le transcrire et de le faire entendre. Et d'autres fois, ce sont des partitions qui sont inachevées du Duke.
Ah, il y a eu quand même, oui, des traces, des partitions déjà écrites, oui.
Oui, mais là, en l'occurrence, il s'agit de partitions. C'est pas des scores, c'est vraiment des partitions individuelles pour trompette, sax, trombone, qui s'arrêtent en plein milieu de nulle part.
Ah ouais, c'est marrant.
Et qui visiblement avaient été testées par Ellington pour une séance de répète ou deux et qui n'ont jamais été enregistrées ni jouées en concert.
Et ça reste où ça? Par exemple, vous dites des bandes inaudibles, encore faut-il les récupérer, ces bandes, on les trouve où? Qui est-ce qui a fait ça?
Alors en l'occurrence, pour les bandes inaudibles... pour les bandes inaudibles ou à la limite de l'audible, c'est le travail que nous avons fait sur Turcaret, la pièce de théâtre dont Jean Villard a commandé la musique à Ellington en 61.
Jean Villard qui était un jazz fan. Hein.
Oui, fan d'Ellington et du jazz. Et puis, je dois dire que cette musique de théâtre, qui est la seule musique de théâtre qu'Ellington a écrite, il l'a faite pour la France, enregistrée par un orchestre français en 61. Et donc, à partir de cette bande, nous avons reconstitué la musique. Et puis, il y a d'autres types de matériaux, notamment pour la Gutlass suite, la suite pour le château de Gutlass, que l'on connaît tel qu'Ellington nous l'a laissé, mais il y a des morceaux qui ont été déposés par Ellington, mais que personne n'a jamais entendu, qui sont Gogo et qui sont Gigi. Et en fait, ces morceaux n'ont jamais été terminés. Et ces partitions, je les ai retrouvées à la Smithsonian Institution à Washington, en farfouillant dans les archives. Et quand j'ai vu ces partitions individuelles, je me suis dit mais c'est pas possible, ça on connaît pas, on n'a jamais vu. Et la difficulté, c'était une fois qu'on a que les trompettes, les trombones et les saxophones, vous allez me dire bon bah c'est bon, on a ce qu'il faut. Bah pas du tout, parce qu'on n'a pas la forme du morceau.
Oui.
Ça s'arrête nulle part, donc on ne sait pas comment ça allait. On n'avait pas le tempo. On n'a même pas le groove. Est-ce que c'est latin, swing, une balade, machin?
Il n'y a aucun témoignage.
Il n'y a rien. On n'a pas la ligne de basse.
Alors là, vous procédez comment, alors?
On ne sait pas ce qu'Ellington aurait joué lui-même. On ne sait pas quelle aurait été la place des solistes. Bah, comment on procède? À partir de ce matériau, c'est un peu comme Soussmayer qui termine le Requiem de Mozart, quoi, finalement. C'est qu'à partir de ce matériau, on active tout ce qu'on connaît du Duke, pour essayer de trouver la forme qui semble la plus adaptée en fonction de ce qu'il aimait faire à cette époque-là. Éventuellement apporter des backgrounds qui n'ont pas été écrits, mais qu'on va rechercher dans des morceaux
similaires,
qui sont à peu près de la même époque, ou qui sont similaires. Et puis après essayer d'imaginer la place des solistes. Et puis il y a un type qui fait quand même un travail extraordinaire dans l'orchestre, c'est Philippe Milanta, parce que quand je demande à Philippe maintenant Philippe, il faut que tu te poses la question de savoir qu'est-ce qu'Ellington aurait joué.
Ah ouais.
Et là on rentre dans à la fois une introspection, une culture générale et puis une science de l'instant qui fait que on essaye d'arriver à trouver la bonne façon. Ouais.
Alors justement, voilà, vous m'offrez sur un plateau une transition concernant le groupe justement. Comment vous avez constitué ces 15 musiciens? Il y a quand même des tas de gens qui jouent du Duke Ellington dans différents pupitres. Comment vous avez choisi Nicolas Montier au saxophone ténor, Didier Desbois, tout à l'heure on en parlait, au saxophone alto, Philippe Milanta, Julie Sory qui joue de la batterie? Pourquoi cela?
À l'origine, j'ai construit l'orchestre autour de sa section rythmique. Je savais que le cœur de l'orchestre, ce serait le piano, forcément. Et je cherchais le pianiste qui pouvait le mieux porter le costume d'Ellington, sans être non plus un singe savant. Milanta avait fait un tel travail sur Count Basie et avait d'ailleurs accompagné le Duke Ellington Orchestra dans sa carrière. Et il connaît très bien toutes ces choses-là. Donc j'ai demandé à Philippe de tenir le piano. Et après, je lui ai laissé carte blanche pour basse-batterie. Parce que je souhaitais que la rythmique se connaisse et travaille déjà ensemble. Donc, la rythmique, en fait, c'est le trio de Philippe Milanta. C'est intéressant ce qu'on vient de l'entendre à l'instant sur Daily Double, qu'on vient d'écouter, qui est une interprétation d'Ellington sur les tableaux de Edgar Degas, les scènes de course. Enfin, c'est vraiment étonnant. On se dit qu'il y a plein de surprises. Là, on voit bien, quand tout l'orchestre s'arrête et qu'on se retrouve en trio ou en quartet, tout d'un coup, on est comme dans une petite formation de jazz. La question n'est pas de savoir si on est dans un big band ou pas. Donc, je voulais cette souplesse. Après, pour tous les solistes, je cherchais un son, en fait, un son pour chacun, qui à la fois soit très personnel et qui en même temps puisse s'assembler en section. Et je mets la priorité sur le son de chacun et les combinaisons de sons plutôt que sur le fait que tout le monde joue tous ensemble de façon militaire. Ça m'intéresse pas trop. Ça.
D'accord. Donc le rôle de Johnny Hodges a été dévolu à, en l'occurrence,
à Didier Desbois.
À Didier Desbois.
Montier est arrivé un tout petit peu plus tard, mais il partage le rôle de Paul Gonsalves avec Fred Couder. Et j'allais dire Montier plus dans sa version tradition swinger et Couder dans sa dimension plus ouverte, plus aventureuse parfois et avec. Philippe Chan, c'est pas compliqué. Lui, il m'a dit.
C'est Eric Arnay.
Bah, lui, il m'a dit dans le moi, pour moi, je suis. Il me dit c'est pas compliqué. Ça fait des années que je pense que Eric Arnay, c'est mon dieu. D'ailleurs, on m'appelle Harry réincarné. Donc, si tu m'appelles pas pour faire le baryton, c'est pas compliqué. Je mets une bombe dans ta maison.
Ah oui,
donc
non, dans ce cas-là,
là, j'avais pas le choix.
Ah, oui.
Voilà. On vient de recruter un jeune tromboniste formidable, Fidèle Fourneron, qui a une belle part dans ce disque, qui est un jeune musicien du CNSM qui a été formé par François Théberge et par toute la bonne équipe autour de Ricardo Delfra. Et on est très content parce qu'il y a tout un vivier de jeunes musiciens qui nous rejoignent. Fidèle fait un travail formidable au plongeur. Il y a cette jeune Aurélie Tropé, clarinettiste incroyable. Qui est à la fois capable de jouer la clarinette de Bigard et celle de Hamilton. Elle est très étonnante. C'est une future star de la clarinette. François Biensan, j'en ai parlé. Dans le rôle de... Voilà. Et puis après, il faut faire des compromis ensuite. Parce que on n'aura jamais, par exemple, Cat Anderson. Personne au monde n'est capable de jouer Cat Anderson.
Alors il y a Franck Delpeux, je crois, si j'ai bonne mémoire.
Franck Delpeux fait le premier trompette. Mm-hmm. Alors ce qui est intéressant chez nous, enfin ce qui est pas facile pour lui, c'est que lui, il fait toutes les premières trompettes de tous les morceaux.
Bah,
alors que la tradition des big bands américains, c'est que les premiers sont partagés. Mm. Personne ne fait jamais tous les premiers trompettes.
Il faut que les lèvres tiennent quand même jusqu'à la fin du concert.
Lui, je sais pas comment il fait. C'est vraiment un type étonnant. Il tient tout pendant tout le concert.
Oui, c'est un extraterrestre.
Et il est en relais avec Richard Blanchet qui lui fait le suraigu. Voilà. Et puis il y a vraiment une belle équipe dans cet orchestre.
Et là, vous procédez comme le Duke, c'est-à-dire que vous allez faire des répétitions par pupitre. Vous allez mettre tous les saxes ensemble, tous les trompettistes et trombonistes.
Ça peut arriver de façon occasionnelle quand il y a des travaux spécifiques à faire, mais la plupart du temps, on se réunit une fois par mois et on travaille les nouveautés et les classiques. On travaille beaucoup des morceaux qu'on ne jouera jamais.
Ah ouais.
C'est ce que j'appelle les fondamentaux.
Voilà, juste pour travailler le son d'ensemble, le gros.
Oui,
son groupe.
Oui, c'est ça, c'est vraiment les fondamentaux d'Ellington. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est jouer sur les temps. Ben oui.
Mm-hmm. Ouais, c'est vrai.
Ça
ouais.
a l'air de rien, ouais. mais faut faire danser les gens.
Ouais, très juste.
Don't me a thing if it ain't got that swing. Et ça, pour Ellington, c'est jouer sur les temps.
C'était un credo, hein. Ça veut rien dire si vous avez pas le swing.
Exactement.
Voilà, c'était l'époque du Cotton Club et.
C'est ça. Jouer sur les temps pour faire danser les gens. Travailler les textures sonores. Et puis phraser d'une façon qui soit pas, j'allais dire pas jazz, pas big band, pas Count Basie style, l'inverse, c'est-à-dire phraser avec des croches qui sont beaucoup moins ternaires qu'on ne croit, c'est presque des croches égales, phraser en inversant les articulations sur les croches et justement en accentuant les temps, c'est très étonnant quand on prend un morceau d'Ellington et qu'on veut le jouer façon Count Basie, ça sonne pas du tout. Et là, il a fallu désapprendre pendant des années pour à nouveau remettre. Donc il y a un travail de fond. Et puis après, il y a le fait pour l'orchestre de digérer toutes les nouveautés. Il y en a eu beaucoup cette année.
Le rapport entre Ellington et la France, c'est quand même le but de cet album. Ellington French Touch, il n'est pas venu si souvent que ça, Ellington en France, si?
Il est venu en 1933. Il est venu en 1939. C'était ses premières tournées européennes. Et à partir des années 50, il est venu pratiquement tous les ans.
Une fois, oui, enfin,
on va dire tous les 2-3 ans maximum. On l'a vu très souvent. Et beaucoup de nos auditeurs l'ont vu en concert. Beaucoup de nos auditeurs l'ont vu en concert. Il adorait la France. Il aimait, il disait que la France, c'est le pays du savoir-vivre. Et par ailleurs, il disait également que les Londoniens, puisqu'il aimait beaucoup aussi l'Angleterre et la cour, il disait que les Londoniens, ils étaient le peuple le plus civilisé au monde. Mmh. Et il savait très bien où il mettait les pieds, Ellington. Il adorait le Beaujolais. Et il se faisait chambrer parce que les gens trouvaient qu'il préférait le Beaujolais au champagne.
C'est quand même, oui. Y a pas photo, malgré tout. Mais bon, pourquoi pas.
Épicurien qui mangeait beaucoup, qui adorait la bonne chère. Et pour lui, saucisson de lion, rosette, pâté en croûte, ça n'avait aucun secret. Il partageait la table. Et d'ailleurs, Billy Strayhorn, qui travaillait avec lui, qui était le co-compositeur de l'orchestre, a passé plus de temps en France que Duke, d'ailleurs. Et se sentait très à l'aise. Mais il y a aussi une relation aussi avec le sentiment, c'est pas nouveau, le sentiment de liberté qu'éprouvent les musiciens noirs américains en France par rapport à la condition des noirs aux États-Unis, et puis la liberté des mœurs. Pour Billy Strayhorn, c'était important de se sentir libre, plus libre à Paris qu'aux États-Unis sous le regard de l'autre.
Dans vos cartons, vous gardez encore du matériel pour d'autres disques. Il y a déjà des morceaux, donc vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas encore joué en public. Est-ce que ça veut dire qu'il y a assez de matériel pour créer un autre disque? Est-ce que ça va continuer?
Mais déjà, je sais pas comment, mais cet album,
thématique aussi, voilà.
Ellington French Touch, il est plein jusqu'à ras-bord. Et il y a 4 morceaux qu'on n'a pas pu mettre dedans. Donc déjà, il y aura des bonus, je sais pas quand on les mettra, sous quelle forme. Mais bref, il y aura des morceaux en plus. On enregistre régulièrement nos concerts, donc on a dans l'idée de sortir régulièrement des albums thématiques, et je serais pas très étonné que dans 2 mois ou 3 mois, il y a un nouvel album du Duke Orchestra qui sorte, qui soit le témoignage. Vous voulez un scoop?
Oui, allez, dites donc, c'est une question de base. Bien sûr qu'on veut un scoop.
Bon, le scoop, c'est que si tout va bien, avant l'été, on présentera la Battle Royale de Jazz à Vienne.
Ah, ben voilà.
Sous forme discographique, Paisy versus Ellington, avec Michel Pastre, Big Band et le Duke Orchestra, sur la grande scène de Jazz à Vienne, l'été dernier, 50 ans après la rencontre. Les deux orchestres, donc revisite le matériau et surtout prolonge la rencontre. Mmh. Et donc si tout va bien, ce disque sort avant l'été.
Ah, précisons pour les auditeurs que Michel Pastre joue aussi du saxophone ténor, non, vous plutôt de la trompette ou de la trompinette même.
Moi
je
joue la trompette.
Et
de
lui
poche.
Il est complètement busy à fond.
Ah hein, bah lui il est votre équivalent
mais en
c'est
en,
ça
en
il
temps
est
busy,
l'orchestre spécialiste de busy en Europe et
donc belle rencontre.
Il y a eu un beau bras de fer amical à Jazz à Vienne l'été dernier.
Ah, voilà. Ça ne surprend pas. Et là maintenant le Duke Orchestra dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, où est-ce qu'on va pouvoir l'écouter?
Eh ben, disons qu'il va se passer quelque chose de assez particulier le 12 mars, dans quelques jours. Cet album Ellington French Touch, moi je souhaitais pas qu'on en joue uniquement la musique, parce que j'ai vraiment dans l'idée depuis le départ que l'héritage Ellington, c'est ici et maintenant. C'est-à-dire que on a une responsabilité de création et de donner du souffle à cette musique. Donc on va présenter cette musique, mais sous la forme d'un spectacle musical assez proche de l'univers des comédies musicales, dans le sens où il y a une narration, où il va se passer des choses sur scène et pas uniquement un orchestre.
Ah, c'est super.
Et on va retrouver Ellington sur scène, qui va venir nous parler, qui va diriger l'orchestre. On va avoir une formidable chanteuse, comédienne, danseuse qui s'appelle Nicole Rochelle, qui était le premier rôle de Josephine Baker dans le spectacle de Savary, et qui, en tant qu'américaine de Broadway, va découvrir justement la French Touch d'Ellington.
Et ce sera où?
Va débouler, je vais vous le dire, attendez, va débouler sur la scène, et elle va essayer d'en savoir plus, et elle va découvrir toute la relation de Paris avec la France, avec justement des images d'archives, des numéros de cabaret, enfin, ça va être très étonnant. Et ça va se dérouler le 12 mars au théâtre Le Palace.
Voilà, c'est le rendez-vous
est
pris.
Très grande salle de 900 places, complètement restaurée, qui est magnifique. C'est un très très beau théâtre. Et on va donner le spectacle une seule fois. D'accord. Il y aura pas de télé, il y aura pas de captation, il y aura pas de DV. Donc vraiment, c'est ici et maintenant, le 12 mars au Palace.
Eh ben merci beaucoup pour toutes ces informations là. Donc c'était, je rappelle, Laurent Mignard qui venait dans notre 20h ce soir pour nous présenter le dernier album du Duke Orchestra qui s'appelle Ellington French Touch. Merci Laurent.
Merci Bob. Thank you.